radio provisoire.
Hello. Turn on the radio. I'm talking to you.
You're being grotesque.
It's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Décibel en ce lundi 24 septembre 2018. Décibel, c'est une émission sur l'actualité musicale et locale de Radio PFM. Vous pouvez nous écouter sur les ondes, dans la rageoire, sur le 99.9, partout dans le monde, sur les sites internet www.radiopfm.com et depuis peu sur la RNT, qui est un peu l'équivalent pour la radio de la TNT. Je ne suis pas seule ce soir, donc aux manettes, c'est moi-même Honorine. Et donc, comme je le disais, je ne suis pas seule puisque Jean-Luc est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Honorine.
Donc, tu es venu dans les studios donc, pour nous présenter un petit bout de la vie de Jacques Lanzmann, donc un grand parolier des années de 1927 jusqu'en 2006 pour énumérer un petit peu sa vie. Donc peut-être pour te connaître un petit peu mieux avant de pouvoir expliquer un peu ce qu'était Jacques Lanzmann en termes d'écriture ou ce genre de choses. Donc voilà, Jean-Luc, pendant cette demi-heure, va nous présenter, on va dire en termes un peu de chronique, donc Jacques Lanzmann. Comment finalement tu as choisi de chroniquer donc ce parolier, donc qui était aussi le frère de Claude Lanzmann, cinéaste qui est disparu il y a quelque temps.
Je pense que j'ai choisi Lanzmann parce que c'est un auteur qui m'a interpellé de suite quand j'ai entendu les premières chansons de Dutronc. J'étais encore jeune, mais il avait un ton qui n'existait pas à l'époque. Il avait une pertinence, il avait quelque part une insolence. Et de suite, ça m'avait attiré et j'ai tout de suite adhéré aux chansons de Lanzmann et Dutronc. Dès la première, ça m'a véritablement intéressé.
Donc durant cette demi-heure, on pourra réécouter donc, des extraits de ce parolier avec Jacques Dutronc. Mais d'abord, on va peut-être un peu parler de son enfance, hein, Jean-Luc.
Oui, l'enfance de Jacques Lanzmann.
Donc né en 1927 à Montrouge et mort en 2006 à Paris.
Voilà. Donc après le divorce de ses parents, Jacques Lanzmann suivra son père et sa belle-mère en Auvergne avec son frère et sa sœur dans la Haute-Loire, très exactement, à Brioude, ville de 5000 habitants, sous-préfecture, surplombée par la magnifique basilique romane de Saint-Julien. Il vit dans un appartement au-dessus de la modeste boutique de vêtements appelée pompeusement, dira-t-il, les nouveautés de Paris. Donc cela avec son père et sa belle-mère qui ne l'apprécient pas du tout et réciproquement. Le foyer manque d'argent et Jacques souffre de la faim. Son père ayant fait de mauvaises affaires lorsqu'il était antiquaire, c'est un enfant rebelle et ce ne sont pas les remontrances ou les punitions qui viennent à bout de son tempérament. Il n'est pas rare qu'il entende « Toi, tu finiras en prison. » Pendant l'occupation, son père louera cet enfant rebelle à un paysan contre des victuailles, oui, contre des jambons et des saucissons. Il sera vaché. Dans une atmosphère un peu plus calme, il découvre la vie au contact de la nature. Il voit l'hiver s'allonger, observe dans le froid la nature qui semble morte. Puis vient le printemps, et à ce moment, c'est la renaissance. Les arbres, les oiseaux, les animaux sont en fête. Le printemps recrée la vie. Et Jacques prend conscience à ce moment qu'il est toujours possible de renaître après une période douloureuse.
Donc c'est, on va dire, la période où il y a une chanson hein, finalement, donc on passe peut-être tout de suite à une chanson avant de passer peut-être à la suite qui représente vraiment aussi son enfance un peu malheureuse. Hein, donc le titre fait pas ci, fait pas ça.
Voilà, une enfance malheureuse et aussi l'enfant rebelle qu'il est à ce moment-là et qu'il restera.
Donc on écoute Fais pas ci, fais pas ça, donc chanté par Dutronc.
Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pampant tu tues. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu tues. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas ci, fais pas ça, à tata pour trop de cadet, à cheval sur mon bidet. Vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là, la la la. La la la, la la la. La la la, la la la, la, la.
C'était donc le titre « Fais pas ci, fais pas ça » chanté par Dutronc et puis dont le parolier est Jacques Lanzmann. Donc durant cette demi-heure, on fait un peu une rétrospective hein, sur Jacques Lanzmann, le parolier, qui a beaucoup écrit donc, pour Dutronc. Donc juste avant ce morceau, on parlait vraiment donc, de l'enfance de Jacques Lanzmann qui était assez triste hein, finalement, avant donc, de partir, de vivre finalement en Auvergne.
Il s'est éveillé effectivement à partir, je dirais, de son séjour dans la ferme, chez les paysans. Il s'est vraiment construit au contact des Auvergnats. Il dit d'ailleurs que l'Auvergne est sa terre, qu'il y a vu le cycle de la vie et notamment la fin de ce cycle, qui l'aura sans doute marqué, puisqu'il dit avoir vu des paysans mourir sereinement. Car, dit-il, il laissait des enfants, des petits-enfants, une ferme. Ainsi, dit-il, de cette période, qu'elle ne fut pas heureuse, mais qu'au fond, avec cette distanciation qui est la sienne, que ce n'est pas si mal d'avoir une enfance comme la sienne, car ça l'a fait mûrir plus vite. Il gardera toujours, au fond, un coin d'Auvergne dans son cœur. Et lors de ses voyages, raconte-t-il, il lui arrive régulièrement que certains paysages lui fassent penser à l'Auvergne qu'il considère comme son pays.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que finalement, c'est un grand aventurier qu'on verra aussi. Hein. Oui, tu peux continuer si tu veux.
Voilà. Et il dit aussi en souriant malicieusement que c'est là qu'il a appris à manger le jambon et le saucisson, ce qui n'est pas rien quand on connaît ses origines, puisqu'il est d'origine juive. Hein. Il dit aussi que, quelque part, la première de ses souffrances n'est pas celle d'avoir été juif, premièrement, mais celle justement d'avoir été roux. Et d'avoir été d'une façon discriminée par cette différence-là, et il en a souffert énormément. Voilà.
Donc tu me dis, hein, donc ce petit rouquin a tellement souffert de cette différence qu'il racontera plus tard que son principal n'était pas, ouais, comme tu viens de le dire, le fait d'être juif, mais d'être roux. Et puis, donc, il décrira aussi son enfance dans un célèbre livre, donc, parce qu'il a été aussi pas mal, il a été donc parolier bien connu de Dutronc, mais aussi romancier, presque à ses heures perdues, j'ai presque envie de dire ça comme ça aussi. Hein.
C'est un romancier, oui, c'est un vrai romancier. Un romancier qui écrit en prenant des éléments autobiographiques, mais un véritable romancier. Le Têtard, effectivement, est un succès exceptionnel, puisque il en vendra près d'un million d'exemplaires en 1976. Hein. C'est quand même ce qui est énorme.
Et donc, c'est un bouquin, finalement, qui revient sur sa vie. Hein. Donc, c'est un bouquin, enfin, c'est un ouvrage auquel il revient sur sa vie, hein, Le Têtard.
C'est un ouvrage, en fait, qui fait référence à toute la période de son enfance, oui. Qui va donc là de 6 ans à 15 ans.
Oui. Bah, je te propose d'écouter L'Opportuniste avant finalement d'évoquer purement son adolescence.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle claque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
C'était donc L'Opportuniste, donc chanté par Jacques Dutronc et dont le parolier est Jacques Lanzmann, donc le frère de Claude finalement. Donc on est toujours avec Jean-Luc pour nous présenter un petit peu ce personnage un petit peu ambivalent hein, de ce qu'était finalement Jacques Lanzmann. Donc par rapport aux chansons qu'il a pu écrire, par rapport aussi aux romans qu'il a pu écrire, aux voyages qu'il a pu effectuer et en même temps aussi donc ça son enfance un peu douloureuse. Donc là, on arrive finalement à son adolescence où il devient presque résistant, en contrepoint avec cette chanson « L'Opportuniste ».
Oui, je pense que Jacques Lanzmann, c'est pas je pense, Jacques Lanzmann est un homme engagé. Et quelque part, lorsqu'il écrit L'Opportuniste, effectivement, c'est pour dénoncer ce type de personnage qui n'a justement pas d'avis, qui n'a que des intérêts. Et cette chanson, elle est écrite pour ça. Et elle reste toujours d'actualité et elle restera toujours d'actualité.
Donc, comme pas mal de ces chansons aussi qui sont souvent reprises aussi. Peut-être, Romain, revenir finalement sur ces doutes, on va dire, d'adolescents et puis ces peurs aussi d'adolescents de mourir trop jeune sans avoir vécu certaines choses importantes. J'ai presque envie de dire ça comme ça.
Oui. Jacques Lanzmann vit, en Auvergne, et il voit la nature s'épanouir. Et en même temps, il va prendre conscience de sa propre sexualité, justement, à travers tout cela. Et une chose finit par, quelque part, l'obséder, c'est l'envie de faire l'amour, et surtout l'envie de faire l'amour avant de mourir, puisque bon...
Oui, parce que c'était une période assez sombre.
C'est une période assez sombre, on est pendant la guerre, et lui dit qu'il ne veut pas mourir avant d'avoir fait l'amour. C'est vraiment une idée obsessionnelle. Il ajoutera même qu'il est plus facile de tuer un Allemand que de tuer une obsession. Ce en quoi il n'a pas tout à fait tort d'ailleurs à l'époque, puisque c'est vraiment difficile de tuer une obsession.
Donc il y a aussi tout le pan aussi, donc pendant la guerre il a été aussi un peu résistant, hein, ce que tu as pu aussi dénicher comme dans toutes tes recherches, et notamment aussi une anecdote aussi par rapport au fait qu'il arrive à s'en sortir quasiment indemne.
Oui, tout à fait, parce qu'il est arrêté par la milice et condamné à être fusillé. Alors, il trouvera cette injustice tellement insupportable qu'elle va lui donner la force de s'échapper au moment où on lui tire dessus. Cet instant lui donnera toujours le sentiment d'une forme d'invincibilité. C'est aussi lors des longues marches dans les massifs qu'il peut apprécier ses qualités physiques de marcheur et son goût pour cette discipline. Et puis, cette fameuse obsession, faire l'amour avant de mourir, eh bien... il a finalement pu lui tordre le cou. La libération résonne pour lui aussi sur le plan sexuel. Il fait l'amour et curieusement, le jour où il fait l'amour, il contracte auprès de sa partenaire une maladie du sang. Ainsi, l'homme qui ne voulait pas mourir avant d'avoir fait l'amour a failli mourir le jour où il l'a fait. Il ne devra la vie sauve qu'à la pénicilline que lui donneront les Américains.
Donc ça, c'était finalement une belle anecdote. Donc tu l'as évoqué, c'est à cette époque-là où il se rend compte qu'il est, pour le coup, qu'il est endurant, dans le sens où il peut marcher très longtemps. Donc c'est à partir de là aussi où il va devenir un peu aventurier, travailler un peu partout, visiter un peu le monde et puis aussi se mettre aussi à la peinture, hein.
Oui, absolument. Après la guerre, Jacques Lanzmann devient peintre et ses toiles sont appréciées. On lui reconnaît très vite un talent certain. Il n'est pas rare de le voir planter son chevalet du côté d'Auvers-sur-Oise pour y rencontrer peut-être le fantôme de Vincent Van Gogh. Mais il ne va pas pouvoir poursuivre cet art, car celui-ci le mène à une forme de dépression. Il a le sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer. Ça va jusqu'aux idées suicidaires qui lui viennent à l'esprit. Lui, qui n'a pas vécu, comprend l'absurdité de cette situation. Il ne veut pas mourir. Il range ses pinceaux et ses toiles. Il ne peindra plus. C'est décidé. Il aura été peintre durant 7 années.
Donc je te propose d'écouter l'extrait donc du titre L'Aventurier, donc toujours chanté par Dutron, qui était, on va dire, un petit peu sa muse.
Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué aux dames à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. santé. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes à Papette, j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota, et des calculs à Calcutta. À moi faut pas me raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas me raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à Téhéran, et au sauna à Sahana, j'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la tôle à l'eau, j'ai été lourde et à lourde. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin, j'ai été gentil à Port-Gentil. Et Malpoli à Tripoli, j'ai fait la vie à Varsovie, et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier.
C'était donc l'aventurier, donc sorti en 70 et donc interprété par Jacques Dutronc, dont le parolier est Jacques Lanzmann. Donc on est toujours avec Jean-Luc pour nous parler de ce personnage emblématique qu'était Jacques Lanzmann. Donc juste avant, finalement, on parlait un petit peu de sa vie d'adolescent et donc de la peinture, de sa passion pour la peinture, avant finalement d'entreprendre énormément aussi de voyages, comme on a pu l'entendre juste avant avec l'aventurier.
Absolument, il a beaucoup voyagé. Donc après cette période durant laquelle il a été peintre, où il voyageait déjà un peu, il s'est embarqué pour Tahiti. Il a fini en Corse, où il a erré quelques mois, puis il a gagné l'Afrique. Il va, de par sa personnalité, nouer des amitiés avec des personnes hors du commun, puisque lui-même est hors du commun, sans forcément s'en rendre compte, puisque lui n'a pas un bagage intellectuel, encore à l'époque, extrêmement élevé. Et il va rencontrer notamment Anaïs Nin, avec qui il va devenir ami.
Ah oui, donc qui est-ce cette personnage?
On connaît Anaïs Nin, on pourrait en parler pendant longtemps. Et elle
donc,
a écrit.
Juste en quelques mots, ouais, c'est une écrivain.
Oui, tout à fait. C'était... Et puis également Pearl Buck, qui a écrit également, très connu, Anne Swin, et plein d'autres personnes en fait. Donc il attire les gens vers lui parce que c'est vraiment quelqu'un hors du commun. Ensuite, il partira en Islande, on ne sait pas vraiment pourquoi, je crois qu'il avait envie de faire un voyage, il a laissé tomber son doigt sur la map monde, et ça tombait sur l'Islande. Il est parti en Islande, il a survécu quelque temps en vendant des toiles, des paysages d'oasis et de djebel qu'il avait emmené avec lui, des représentations des pays chauds qui faisaient rêver les autochtones.
Et donc, par la suite, il revient, en fait, il aura finalement vécu aussi sur les cinq continents, j'ai presque envie de dire ça aussi, en cumulant pas mal de travail divers. Hein.
Absolument, il a fait pas mal de boulot, il a été peintre en bâtiment, il a fait plein de petits boulots. Lorsqu'il revient, d'Islande, il se morfond pendant une année, il écrit cependant « La glace est rompue ». Il laisse à son frère le manuscrit avant de partir pour les Amériques. Là, durant deux années, au fond du trou, si j'ose dire, il exercera successivement la profession de dynamiteur dans une mine de cuivre au Chili, en altitude dans des conditions extrêmes. Il devient contrebandier au Paraguay et chercheur d'or en Argentine. Rien que cela.
Donc finalement, de par ses expériences, on va dire d'aventurier, il en écrit des livres.
Oui, il en tirera de son périple, il va en tirer un livre, Le Rat d'Amérique, en 1955, qui, grâce à son frère, qui a parlé de lui, parce qu'il voyait déjà en lui quand même quelqu'un d'exceptionnel, eh bien, Jacques Lanzmann a déjà la considération, par exemple, de quelqu'un comme Sartre et Simone de Beauvoir. Voilà. Et le succès du Rat d'Amérique lui vaudra l'estime aussi de Louis Aragon. Et là, ça va un peu changer sa vie, puisqu'il va le faire rentrer aux lettres françaises, où là, il va devenir critique, en fait. Hein. Jacques Lanzmann y restera 3 années, durant lesquelles il vivra un autre calvaire. Car il est claustrophobe, en fait, Jacques. Le rythme qu'il doit soutenir est celui d'une générale par soir. Il est malade dès les 3 coups frappés. Il ne supporte pas qu'un acteur élève la voix. On voit là quand même une personnalité singulière et quelque part aussi peut-être des traces de son enfance au niveau de sa personnalité. Hein.
Donc il continue aussi à voyager, notamment en URSS aussi.
Oui, alors c'est un voyage URSS très particulier parce qu'il croit pouvoir échapper, au général des lettres françaises pour qu'il part en fait. Hein. Donc il va au pays de Khrouchtchev et découvre l'URSS bien différente de ce qu'on avait pu lui raconter. Et de ce qu'il avait pu imaginer. Pour lui, c'est la misère noire, avec une nomenclature bien loin des préoccupations du peuple. 10 ans après la fin de la guerre, il a l'impression que celle-ci vient à peine de s'achever. Alors, là, on va retrouver le personnage rebelle. Il est rebelle par nature et ne peut pas se taire. Le système n'est pas bon, il s'insurge. Il prend sa plume et écrit à son retour un pamphlet nommé « Cuir de Russie ». Et ce pamphlet va forcément faire réagir les différentes personnes qui ont pu l'envoyer là-bas. Et ça va lui valoir les foudres d'Aragon et même de son frère Claude Lanzmann.
Parce qu'en fait, ce qu'il écrit finalement n'est pas la réalité finalement de ce qu'on lui a dit auparavant.
Absolument. Il est loin des clichés qu'on peut véhiculer sur l'URSS à ce moment-là. Et quelque part, on l'accuse de vouloir détruire certaines choses et chacun aussi voulant garder son pouvoir.
Donc, j'ai presque envie de dire que c'est sur ces mots qu'on va déjà terminer cette émission. Et puis, donc, en écoutant finalement le titre « Le responsable », j'ai presque... C'est par rapport à cette boutade-là. Donc, on reviendra dans quelques semaines sur un autre épisode sur Jacques Lanzmann où on connaîtra davantage, on va dire, sa rencontre avec vraiment la musique et puis Dutron qui a réalisé pour lui, j'ai presque envie de dire aussi, des textes qui sont assez mémorables. Avant donc de retrouver l'émission qui arrive juste après, Les Gardiens de la BD. Un dernier mot, Jean-Luc ?
Oui, je dirais que la prochaine émission, ce sera effectivement d'évoquer le duo Lanzmann-Dutron, le fameux duo Lanzmann-Dutron, qui restera inoubliable, je pense, pour bon nombre d'entre nous et qui continuera de perdurer, je pense, pendant de longues années encore.
Merci beaucoup, Jean-Luc, d'être venu dans cette émission ce soir.
Merci à toi, Honorine, de m'avoir reçu. Bonsoir à tous.
Et à bientôt.